Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 8 mars 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Les sanctions ne devraient pas affecter la coopération de l'Iran avec aucun pays, y compris la Russie, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe. L'Iran soutient une solution politique en Ukraine et toutes des initiatives politiques visant à mettre fin à la guerre, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc. Pékin exprime son amitié avec la Russie et se dit prêt à une médiation en Ukraine. Et un colloque international Togo sur la transition politique et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Soulignant que Téhéran s'oppose à la fois à la guerre et à l'imposition de sanctions, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'il était clair que la coopération de la République islamique d'Iran avec n'importe quel pays, y compris la Russie, ne devrait pas être affectée par l'atmosphère des sanctions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et Sergei Lavrov, son homologue russe, se sont entretenus au téléphone lundi soir des relations bilatérales pour parler de Vienne, des développements en Ukraine et de quelques autres de développements internationaux. Se référant à la récente visite de Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, les deux parties ont déclaré que l'AIEA était désormais sur la bonne voie pour la coopération technique avec l'Iran et qu'un bon accord a été conclu. Nous travaillons sérieusement pour parvenir à un bon et solide accord à Vienne. De bons progrès ont été réalisés jusqu'à présent, mais malgré les progrès réalisés, certaines questions n'ont pas encore été résolues à Vienne, ce qui nécessite une décision politique de la part de l'Occident, a déclaré Amir Abdollahian. Téhéran s'oppose à la fois à la guerre et à l'imposition de sanctions, a réaffirmé Amir Abdollahian en soulignant qu'il était clair et que la coopération de la République islamique d'Iran avec n'importe quel pays, y compris la Russie, ne devrait pas être affecté par l'atmosphère des sanctions. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour sa part, a souligné la nécessité d'une coopération entre l'Iran et la Russie dans divers domaines, y compris des relations commerciales et économiques. Se référant au processus de négociation et au soutien de la Russie aux demandes rationnelles de l'Iran, il a expliqué son point de vue à cet égard. Critiquant les sanctions imposées à la Russie, Sergueï Lavrov a souligné l'importance de la coopération entre l'Iran et la Russie dans tous les domaines. Les deux parties ont également discuté d'autres questions régionales et internationales, notamment la crise ukrainienne, le processus d'Astana pour résoudre la question syrienne et le sommet d'aide d'Antalya qui devrait se tenir plus tard cette année en Turquie au format Astana. L'Iran soutient une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu. Les deux ministres se sont entretenus de diverses questions régionales et internationales d'intérêt mutuel pour les deux pays. Nous soutenons une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre. Nous sommes prêts à toute assistance pour faire avancer ce processus, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères lors de cette conversation téléphonique. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, a assuré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, alors qu'une vague de sanctions internationales s'intensifie contre la Russie après son opération militaire en Ukraine. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s'est abstenue de condamner l'intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler d'invasion. L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc et les perspectives de coopération future sont immenses, a affirmé devant les journalistes le ministre chinois des Affaires étrangères lors de sa conférence de presse annuelle en marge de la session parlementaire. Le chef de la diplomatie chinoise était interrogé sur la position de la Chine après la vague de sanctions internationales contre la Russie. La Chine et la Russie, de deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sont les partenaires stratégiques les plus importants l'un pour l'autre, a ajouté M. Wang, affirmant que Pékin et Moscou contribuent à la paix et à la stabilité dans le monde. L'amitié sino-russe est un exemple de relation digne où chacun aide et soutient l'autre dans son développement, avait estimé le mois dernier le président russe Vladimir Poutine, reçu en grande pompe à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs indiqué que son pays était disposé à jouer un rôle dans la crise ukrainienne, notamment en participant le moment venu à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre. Un membre de la délégation nationale de Sanaa, du gouvernement de Sanaa, Abdel Malik Al-Ajri, a tourné en dérision la duplicité occidentale dans la gestion des crises de l'Ukraine et du Yémen et de demandes occidentales d'ouvrir des couloirs sûrs pour l'évacuation des civils en Ukraine, et ce au moment où la souffrance des Yémen est ignoré. La coalition saoudo-américaine a fermé tous les couloirs sûrs en face des Yéménites, a-t-il regretté. Il a écrit sur son compte Twitter: en Ukraine, il exige l'ouverture des couloirs humanitaires dans les conditions de guerre. Un grand nombre de couloirs est généralement ouvert sauf au Yémen. Et d'ajouter, les pays d'agression ont fermé le port de Hudaïda, seul débouché restant pour plus de 25 millions de personnes, et ce afin de créer une crise épuisante de pétrole, de nourriture et de médicaments, a-t-il souligné encore. Un colloque international au Togo sur la transition politique et le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Un colloque international sur la transition politique et la lutte contre le terrorisme au Sahel en Afrique de l'Ouest s'est achevé à Lomé et a fait une série de recommandations aux États et gouvernements de régions ouest africaines. Organisé par le ministère des Affaires étrangères du Togo, la rencontre a regroupé une cinquantaine de participants, dont des universitaires et experts venus de la Suisse, de la France, de la Guinée, de l'Éthiopie, du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, du Bénin et du Togo. Le colloque a notamment recommandé le renforcement des moyens stratégiques et de la gouvernance économique, la diversification des collaborations avec tous les acteurs au niveau national comme international. La rencontre de Lomé a également appelé à la restructuration et à la mise en place des stratégies et agendas au niveau des institutions internationales fondées sur les agendas de la gouvernance politique des États et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique et plus précisément en provenance du Togo et portant sur ce colloque international et sur la transition politique et le terrorisme en Afrique de l'Ouest, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran soutient une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Nous soutenons une solution politique en Ukraine et toute initiative politique visant à mettre fin à la guerre et nous sommes prêts à toute assistance pour faire avancer ce processus, a réaffirmé le ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne s'est entretenu avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu, discutant avec lui de questions régionales et internationales d'intérêt mutuel pour les deux pays, notamment la crise en cours en Ukraine. Nous soutenons une solution politique en Ukraine et toutes les initiatives politiques visant à mettre fin à la guerre, a-t-il souligné, se transmettant les salutations des présidents iraniens et turcs. Les deux diplomates ont évoqué la prochaine visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Iran afin de développer et d'élargir davantage les relations entre Téhéran et Ankara. Les relations bilatérales continuent sur la voie du progrès et du développement. Et la semaine prochaine, des délégations des deux pays se rendront à Téhéran et à Ankara afin de poursuivre le développement à part entière des relations, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Amir Abdollahian a souhaité du succès à la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine à Antalya et a déclaré qu'une délégation du ministère iranien des Affaires étrangères participera également à la réunion d'Antalya. Le ministre turc des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné les mesures efficaces et concrètes pour faire avancer les relations bilatérales avec le soutien des deux présidents, qualifiant les relations entre les deux pays de privilégiées et d'amicales. Expliquant l'opposition de son pays à l'imposition de sanctions à des pays, Çavuşoğlu a souligné que les sanctions ne sont une solution à aucun problème. Il s'est également dit préoccupé par l'escalade de la crise ukrainienne, la possibilité d'une catastrophe humanitaire humanitaire et un afflux croissant de réfugiés et a souligné que l'objectif de la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Ukraine est d'établir un cessez-le-feu et une paix durable dans la région, ce qui est un effort très important. Le ministre turc des Affaires étrangères a de nouveau invité son homologue iranien à se rendre en Turquie. Lors d'un entretien avec son homologue de Russie, Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que nous sommes opposés à la fois à la guerre et à l'imposition de sanctions. Il va sans dire que les sanctions ne devraient pas affecter la coopération de l'Iran avec aucun autre pays, y compris la Russie, a souligné le chef de la diplomatie iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous aujourd'hui dans ce débat. Nous allons parler du Mali. En effet, malgré la pression internationale et les sanctions exercées à l'encontre du peuple malien, le peuple malien est plus déterminé que jamais pour retrouver son indépendance. En plus du retrait total et immédiat donc des troupes françaises du Mali, le gouvernement exige également le retrait des coopérants et des conseillers, ce qui fera de la France un grand perdant. Dans ce débat, nous allons nous pencher particulièrement sur les sanctions et la façon dont le gouvernement a su contourner donc ces sanctions, a même trouvé le moyen d'exporter du coton vers la Mauritanie, ce qui est un exploit malgré toutes ces sanctions. Voilà. Alors nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Il touche principalement les pays optant pour un monde multipolaire. Les pays touchés ne devraient-ils pas s'allier pour faire reprendre l'économie mondiale en main? Suite à la situation concernant l'Ukraine, la Russie a fait l'objet de sanctions sévères. Le Mali, qui fait également l'objet de lourdes sanctions parce que le gouvernement a décidé de suivre la volonté du peuple malien, fait partie des pays qui doit se rallier à cette alliance. De plus, les échecs de la force d'occupation se multiplient, non seulement sur le plan politique ou sécuritaire, mais également économique. À peine quelques semaines après l'embargo occidental imposé au Mali, pays qui, au bout de 8 ans d'occupation militaire par les forces françaises, puis otaniennes, israéliennes et américaines, n'entend plus se laisser faire, pays héritier d'un empire où la population, forte de sa foi, a décidé de prendre son destin en main, le Mali trouve, une à une, les solutions afin de contourner ces sanctions et pas des moindres. Au Mali, le coton est la principale culture de rente. Face à la décision des pays de la CEDEAO de fermer leurs frontières avec le pays, en attendant un nouveau calendrier électoral, les autorités cherchent des moyens alternatifs pour expédier la fibre. La compagnie malienne pour le développement des textiles a procédé le vendredi 25 février dernier au lancement de la première vague d'exportation de coton via la Mauritanie. C'est ce qu'a rapporté l'agence malienne de presse. Cette décision pourrait être un début pour la mise en cause du franc CFA, le Mali étant capable d'enterrer dans des systèmes d'échange basés sur le troc et éviter tout recours au franc CFA. L'exportation du coton malien vers la Mauritanie, le retrait des forces Barkhane, le retrait des conseillers, le rapprochement avec l'axe de l'Est, le blocage du ciel malien au vol interventionniste des forces étrangères et enfin la résistance exemplaire du peuple malien face à la force d'occupation n'est que le début d'une grande vague anticolonialiste qui ne fait que commencer. La résistance malienne et même sahélienne est passée à l'action. Les messages sont passés. Ni les sanctions, ni les menaces, ni les pressions ne feront reculer le peuple malien.
Alors voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. Alors à présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités en commençant par M. Arnaud Develay, juriste international depuis Damas. M. Arnaud Develay, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Merci, un grand bonjour et merci à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles cette fois. M. Michel, bonjour. Monsieur Luc Michel, bonjour. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour. Bonjour à Maître Develay. Bonjour à tous les téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir. Nous démarrons ce débat en parlant bien sûr du Mali. Ma première question va s'adresser à Maître Arnaud Develay depuis Damas. Alors, Monsieur Develay, bien sûr, cette vague de mobilisation anti-française se propage à travers le pays et même dans les pays voisins, comme au Burkina Faso et au Niger. Mais nous penchons particulièrement sur les sanctions exercées à l'encontre du peuple malien qui n'ont rien donné jusqu'ici. Et le peuple malien est plus déterminé plus que jamais, donc, de retrouver son indépendance. Que pensez-vous?
Écoutez, il faudrait d'abord expliquer à nos téléspectateurs que le système actuellement en place, non seulement au Mali, mais dans toute l'anciennement l'Afrique francophone, participe de ce que Frantz Fanon a expliqué dans son ouvrage séminal qui portait sur l'existence, en fait, au-delà de la décolonisation. Un système était resté en place qui voyait les anciennes puissances coloniales garder les leviers de l'exploitation de ces anciennes colonies en utilisant bien sûr la coercition économique, mais la coercition aussi de force, et en plaçant des quislings, hein, des collaborateurs sur place afin de s'assurer que l'exploitation continuait. Sous le général de Gaulle, ça s'appelle la France-Afrique. Mais j'invite aussi nos téléspectateurs à lire le livre de John Perkins, Confession d'un economic hitman, qui explique aussi très bien comment les États-Unis, pour le coup, faisaient la même chose dans les pays d'Amérique latine, en envoyant des conseillers économiques pour imposer des politiques disproportionnées et hors balance en termes des intérêts du pays en question. Et si les choses n'avançaient pas, ils envoyaient des équipes pour essayer d'assassiner le leader qui avait des velléités d'indépendance, avant de, si vraiment ça ne marchait pas, diaboliser le leader en question, faire passer des résolutions à l'ONU et appeler à une exportation de la démocratie. Donc tout ça, c'est un système rodé bien connu qui caractérise la période qui va, on va dire, de la fin des années 50 jusqu'à nos jours, plus ou moins, à l'exception près que maintenant, effectivement, avec l'émergence d'un monde multipolaire et un rebalancement des forces en présence, l'axe de l'Est est au travers de la crise en Ukraine un accélérateur de ce processus. On peut constater que maintenant, plus que jamais, les dynamiques et les tendances lourdes sont en train de s'inverser et que les sanctions ne sont plus aussi efficaces qu'elles pouvaient l'être il fut un temps grâce à la mise en place de mécanismes alternatifs qui fait que maintenant l'Occident est en train de perdre le contrôle de ses anciennes colonies et partant de là mettre fin au système d'exploitation institutionnalisé.
Oui, merci. Monsieur Luc Michel, donc la France qui a tout fait jusqu'ici presque 9 ans, neutraliser militairement, économiquement ce pays n'a pas tellement réussi car le Mali, malgré le fait que la France a beaucoup pillé sa richesse, a retrouvé sa force et va retrouver très bientôt son indépendance.
La France, elle fonctionne avec un logiciel qui est dépassé. Et c'est pour ça que actuellement au sein du bloc américain occidental, la France est le ventre mou de l'impérialisme. Ce qui à la France n'a pas compris, c'est qu'à partir de 2015-2016, on est entré dans un nouveau cycle géopolitique qui est l'arrivée de la Russie en Afrique. Et je suis d'accord avec Maître Develay, l'Ukraine est un accélérateur de ce processus. La Russie, elle a apporté de l'oxygène géopolitique, militaire et diplomatique. Maintenant, les chefs d'État africains, ils ont des solutions alternatives, ils peuvent faire des choix. les peuples de ce que les Africains appellent les sous-préfets français, c'est-à-dire les présidents aux autres, mais il y a encore des spécimens, Mohamed Bazoum ou Alassane Ouattara, le président du Gabon qui est près des Allemands, ce que Alassane Ouattara est près des Français, eux, ils fonctionnent encore avec l'ancien logiciel. Et ils ne se rendent pas compte d'une part que les masses africaines sont conscientisées, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont sur les chaînes alternatives, et elles ne se laissent plus prendre. Hier, il y a eu une grande manifestation pro-russe à Bangui. Les Français ont déclaré que c'était des gens qui manifestaient contre l'insécurité. Absolument pas. C'était ouvertement pro-russe et anti-français. Et le mouvement Yeremolo au Mali, justement, a pris position pour soutenir Poutine. Mais quand on regarde le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, on s'aperçoit que l'Afrique, quasiment en entier, en majorité, elle est basculée du côté russe. Vous savez que, à part les quelques pays, parce qu'ils avaient peur des Français, des Allemands, et surtout des Américains, à part les quelques pays qui ouvertement sont pour la Russie, toutes les abstentions, ce sont les pro-russes. Le journal de Genève, Le Temps, a édité une carte. Il a mis en bleu les gens donc, qui sanctionnaient la Russie et en jaune les gens qui s'abstenaient. On a évidemment, on dirait que c'est la carte des deux blocs. D'un côté le bloc occidental et de l'autre le bloc multipolaire. Et on constate aussi quelque chose, c'est que du côté des occidentaux, ce sont tous les bénéficiaires de la globalisation, et du côté de la Russie, donc ceux qui se sont abstenus et qui sont en jaune sur la carte, mais on a l'air de ne pas comprendre quelque chose, les journalistes mentent, ils ont l'air de dire qu'il n'y a plus 40 pays pour et 100 pays contre. Mais en réalité, quand vous regardez cette carte, la masse en jaune, vous vous apercevez que c'est la masse des terres émergées et des terres émergées. Et c'est tous les pays, soit qui émergent de l'économie, soit qui sont les victimes de la globalisation. Les Français ne se sont pas rendus compte de ça. Ils se croient encore à l'époque de Foucault, où moi je suis plus méchant, à l'époque de Tata au Congo.
Oui. Maître de Volet, donc, Luc Michel a évoqué la question du rapprochement du Mali avec l'axe de l'Est et particulièrement avec la Russie, un pays déjà qui subit de lourdes sanctions à son encontre par la communauté internationale, enfin les Européens et les États-Unis. Mais depuis que le Mali s'est rapproché de la Russie, il se porte mieux. C'est-à-dire qu'en un mois, ils ont dit eux-mêmes, ils ont tué plus de terroristes qu'ils ont tué en 9 ans avec la présence française.
Oui, là, vous faites allusion à la méthode, en fait, moi, je l'appelle la méthode du golem. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez de toutes pièces un narratif qui postule qu'il y a une menace terroriste, alors que ces éléments terroristes sont plus ou moins armés, entraînés et équipés par la puissance occupante. Et partant de là, présenter la situation comme requérant une intervention sous mandat onusien pour habiller juridiquement l'intervention, et vous faites en sorte que, en fait, la menace ne disparaisse jamais vraiment, puisque partant de là, si elle venait à être réglée de manière radicale, vous ne pourriez plus avoir ensuite le prétexte de maintenir vos troupes et vos coopérants et vos conseillers. Donc, effectivement, la Russie n'ayant pas participé à cette mascarade, lorsqu'elle est invitée par les autorités maliennes à venir assurer la sécurité dans le pays, les résultats sont très rapides et partant de là, Barkhane perd toute légitimité. Et c'est bien ça d'ailleurs qui inquiète les Occidentaux, c'est que plus la Russie va être invitée à intervenir dans les pays africains, plus la sécurité va être en fait garantie assez rapidement, non seulement la sécurité pour l'opinion publique, enfin pour le public, la population, mais aussi garantir la sécurité des dirigeants qui auront mené ces politiques de rapprochement avec la Russie et partant de là, commencer à mettre en œuvre des dispositifs pour sortir tantôt du franc CFA, tantôt du régime de sanctions et se rapprocher d'une politique qui correspond plus à leurs intérêts nationaux.
Oui. Luc Michel, depuis que l'Afrique, enfin le Mali en particulier, a invité la Russie à donc faire régner la sécurité dans son pays, ce qui a été bien réussi, est-ce que il faut s'attendre à ce que d'autres pays africains suivent le modèle malien?
Oui, il faut savoir que la Russie, contrairement à ce que racontent les médias du Quai d'Orsay, je ne les appelle plus autrement que comme ça, quand on voit le déluge de propagande de guerre sur l'Ukraine, on a compris pour qui ces gens travaillent. Eh bien, contrairement à ce qu'on raconte, les Russes ne sont pas qu'au Mali et en Centrafrique. Ils sont en fait des accords militaires avec 14 pays et les firmes de sécurité russes, puisque moi je vous confirme que le groupe Wagner n'existe pas. Il a été forgé dans un livre américain pour combattre justement l'influence russe en Afrique, mais il y a 11 firmes de sécurité. Les firmes de sécurité sont présentes au Soudan, sont présentes en Libye, où ils ont deux bases d'ailleurs à Benghazi et à Koufra, ce qu'on ne raconte pas. Ils sont présents au Mozambique, à côté de l'armée du Mozambique. Ils sont présents au Mali. Ils sont présents en Centrafrique. Et la marine russe, elle, est présente au Congo-Brazzaville et surtout dans la ligne principale de Moscou, dans le domaine en Guinée équatoriale. Ils sont appuyés par les Iraniens, qui eux sont à Madagascar militairement. Ils sont en train d'appuyer diverses formes qui ressemblent un peu à des Hezbollah locaux. Particulièrement, il faut suivre l'évolution de certains chefs d'État africains. Lorsque Alpha Condé, qui était renversé, mais c'est quand même un exemple, il a démarré sa carrière avec conseiller privé, et quand il a été renversé par un coup d'État, il était allié des Russes et des Chinois. Un qui est en train d'évoluer, c'est Macky Sall. Macky Sall, dans le domaine du gaz, c'est l'allié principal de l'Iran, comme on l'a découvert au sommet de Doha. Et c'est comme cela dans d'autres pays. Donc la Russie, véritablement, elle a changé toute la zone géopolitique dans l'ensemble de l'Afrique. Il soulignait particulièrement que la position de l'Éthiopie et de l'Érythrée dans le dossier ukrainien, eux ont très bien compris quels étaient leurs amis et leurs ennemis. Le président Toadera aussi, la manifestation qui a eu lieu à Brasilien, elle était assurée par le mouvement Galaxy, et qui est un mouvement proche de Toadera.
Absolument. Revenons, si vous le permettez, à la question des sanctions exercées à l'encontre du Mali. Maître de Velay, alors, tout récemment, le ministre des Affaires étrangères du Mali s'est rendu à Téhéran pour profiter donc de l'expérience de l'Iran dans ce domaine, car l'Iran, depuis presque 40 ans, a beaucoup d'expérience dans la lutte contre les sanctions et comment contourner ces sanctions. Et justement, on voit tout récemment que le Mali a pu donc contourner ces sanctions, par exemple exportant du coton vers via la Mauritanie, vers l'extérieur, ce qui a été bien réussi, ce qui est un exploit malgré toutes ces sanctions. Que pensez-vous?
Je pense qu'il y a une culture de la résistance qui, effectivement, vous l'avez bien souligné, a toute son origine en Iran. Le pays est plus ou moins sous sanction depuis 43 ans maintenant. Donc elle a une expérience à faire partager aux autres pays qui subissent aussi tantôt des prises de contrôle de leurs infrastructures de outils de production et autres infrastructures économiques et financières. Et qu'à partir du moment où des choix politiques sont pris par des individus dans les pays en question, il est vital de pouvoir obtenir des conseils. Eux savent comment développer une économie de résistance, fabriquer localement, arriver à des accords ad hoc sur tel ou tel sujet avec des pays qui sont disposés à coopérer pour pouvoir, sur la durée et dans autant de secteurs que possible, développer une autonomie qui rende cet usage de sanctions complètement caduc. Et c'est ce que l'on voit effectivement avec les visites récentes, comme vous l'avez souligné, des dirigeants maliens à Téhéran.
Monsieur Luc Michel, votre point de vue, je vous prie à cet égard.
Mais la remarque que j'ai faite sur le logiciel dépassé des Occidentaux et le nouveau cycle géopolitique, il est aussi valable pour les sanctions. Les premières sanctions comme armée économique, quand on ne pouvait pas faire la guerre classique, elles ont commencé à la fin dans les années 1980, dans la dernière décennie de la guerre froide contre les Soviétiques. Les sanctions ont bien marché jusqu'en 2000. et les sanctions contre la Russie, elles ont fait des dégâts. Aujourd'hui, Poutine a préparé son pays aux sanctions et ça ne marche plus. Les sanctions, c'est une arme dépassée et moi, je vais plus loin. Même je voulais parler en début d'émission d'accélérateur de la géopolitique, mais également la nouvelle économie post-globalisation, elle est en train de se mettre en place à cause des sanctions. Qu'est-ce qui fait que les économies russes, chinoises, iraniennes, africaines vont s'intégrer? C'est justement les sanctions. On dirait qu'on est en train de pousser tous les pays sanctionnés à travailler ensemble. C'est déjà ce qui existe d'ailleurs dans le corridor Téhéran, Caracas-Dakar, puisque le Venezuela travaille et s'est rapproché considérablement de l'Iran, pas seulement dans le domaine économique, parce qu'ils sont tous les deux frappés par les sanctions. C'est le même phénomène avec la Russie. De plus, les sanctions conduisent à la dédollarisation du monde. J'ai appelé hier soir notre ami Fabrice Béor, qui vient parfois sur vos plateaux, qui vit à Sotchi en Russie, près de Sotchi, et bon, lui, évidemment, c'est un Français marié à une Russe. Il est catastrophé par l'interdiction, les Mastercard qui ne fonctionnent plus, etc. Mais il me disait que la Russie est en train de mettre au point les solutions, notamment pour remplacer le système SWIFT avec ses clients, et notamment les pays qui sont déjà passés sous sanctions. Il est intéressant que il y a deux pays étroitement qui sont en train de s'unifier quasiment, non pas de s'allier ou de travailler ensemble, mais de s'unifier économiquement. C'est le Bélarus et la Russie. C'est deux pays qui sont sous sanctions absolues et totales depuis maintenant la Crimée pour la Russie et depuis la tentative de révolution de couleur il y a un an et demi au Bélarus.
Monsieur Luc Michel, nous avons une forte impression que la France a la dernière carte à jouer, donc qui est donc les sanctions exercées à l'encontre du pays. Comment la communauté internationale réagit quand on exerce des sanctions à l'encontre des pays qui ne sont pas d'accord avec la France, par exemple, qui exige une indépendance, de l'autonomie et qui exige le retrait des forces étrangères de ce pays?
Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur du bloc américain occidental, il y a une contradiction à terme, pour parler en termes marxistes. C'est-à-dire que l'allié géopolitique et militaire principal, l'OTAN, c'est en même temps l'Union européenne qui est l'ennemi économique. Les Américains ont engagé, depuis Ronald Reagan, ça ne date pas de Trump, une guerre économique et une guerre financière euro-dollar, dès que l'euro est apparu. Et leur but, évidemment, c'est de fracturer l'économie européenne. Et pour le cas des anglo-saxons, aussi bien les Américains que les Britanniques, c'était le but du Brexit, c'est enlever à la France ses marchés africains. Les Britanniques ont fait un sommet à Londres en janvier 2019 avec invité d'honneur le président nigérian Buhari. Ils ont ouvertement expliqué que les marchés français-africains devaient remplacer les marchés perdus en Europe. Ils ont empêché la France de prendre le contrôle de la CEDEAO et ils ont empêché la France de mettre au point ce qu'on appelle le nouveau franc CFA. Voilà, maintenant, moi je soupçonne, si vous permettez, je soupçonne les Américains d'avoir poussé aux sanctions contre le Mali et la CEDEAO pour détacher certains pays africains des pays français. C'est la même chose qui se passe sur le dossier ukrainien. Qu'est-ce que les sanctions visent? Elles visent évidemment militairement la Russie, mais elles visent à fracturer les économies européennes et en particulier à empêcher l'importation du gaz russe en Europe, ce qui va coûter très cher à l'Europe à court terme. Vous avez le cas avec l'interdiction de vol. L'interdiction de vol qui oblige les Français à contourner la Russie, elle va leur coûter des centaines de millions d'euros, des compagnies vont faire faillite. Et la stupidité absolue des Européens, elle intervient dans le cadre de l'interdiction des vols et des jets privés. Il y a 500 000 jets privés, avions privés, qui sont loués en leasing à la Russie par l'Union européenne.
Absolument.
Les Européens ne peuvent pas revenir les chercher parce qu'ils ne savent plus survoler et les Russes ne savent plus les payer. Et la France a demandé m'a demandé, a ordonné. Hier, il y avait une réunion de Vladimir Poutine avec le personnel des compagnies aériennes russes.
Absolument.
Elles ont interdiction de voler en dessous de la Russie pour que les Européens ne puissent pas récupérer leurs avions. Cela va conduire une centaine de tours d'aviation européenne à la faillite, notamment en France et en Suisse. Voilà la subtilité des Européens. Et pendant ce temps-là, Airbus, etc., est en train de péricliter et Boeing, je crois, plein bas.
Absolument. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Maître Arnaud Develet, juriste international depuis Damas, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le principal conseiller des leaders de la révolution islamique pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati, a déploré l'attaque terroriste de Daesh dans une mosquée du Pakistan qui a tué des dizaines de personnes, rendant Washington responsable des insécurités régionales. Les Américains ont reconnu à plusieurs reprises officiellement qu'ils étaient à l'origine de la formation de Daesh. Par conséquent, les Américains sont complices de tels crimes, tragédies et souffrances. Cependant, avec la résistance des peuples opprimés de la région et les sacrifices de la figure antiterroriste des peuples opprimés de la région, le général du corps d'armée, le martyr Soleimani, leur sinistre complot dans la région ont été déjoués, il a ajouté. Affirmant que le peuple pakistanais répondra à cet acte terroriste, Velayati a souligné « Ni les Américains ni leurs acolytes ne pourront pas atteindre leurs objectifs honteux et la victoire reviendra au front de la résistance et au peuple opprimé de la région ». Plus de 60 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés ont été blessés dans une explosion qui a ravagé une mosquée chiite lors de l'une des pires attaques terroristes au Pakistan depuis des années. Le groupe terroriste de Daesh a revendiqué la responsabilité de cette attaque terroriste. Nous sommes en dialogue permanent avec l'Iran qui comprend des négociations informelles car s'il n'y a pas d'accord, nous ne pourrons pas parvenir à un consensus sur un certain nombre de questions, a déclaré lundi le chef de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans sa déclaration lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lundi à Vienne, Raphaël Grossi a affirmé que la déclaration conjointe concernant l'accord qui a eu lieu samedi entre de la partie iranienne et l'AIEA a décrit certaines mesures qui devraient être prises dans les 2 mois à venir. L'AIEA attend avec impatience d'obtenir le 20 mars des éclaircissements écrits actuels, y compris des pièces justificatives liées aux questions soulevées par l'AIEA sur 3 lieux spéciaux, a-t-il ajouté en poursuivant. Nous sommes confrontés à beaucoup de travail et nous sommes prêts pour cela. L'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation iranienne de l'énergie atomique ont convenu donc le prolongement de leur coopération, comme indiqué dans leur déclaration conjointe du 26 août 2020, d'accélérer et de renforcer la coopération et leur dialogue visant à résoudre les problèmes récents. Selon le communiqué de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'Organisation nationale de l'énergie atomique, l'Iran fournira à l'Agence internationale de l'énergie atomique au plus tard le 20 mars de 2022 les explications écrites, y compris des pièces justificatives liées aux questions soulevées par l'agence qui n'ont pas été abordées par l'Iran sur les problèmes liés à trois endroits où l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé avoir trouvé en fait des particules d'uranium. Dans les deux semaines suivant la réception des explications écrites de la partie iranienne et des pièces justificatives des connexes, l'AIEA examinera ces informations et soumettra à l'Organisation nationale de l'énergie atomique d'Iran toutes questions sur les informations reçues. Les États-Unis préparent des terroristes de Daesh dans la base d'Al-Tan pour les envoyer en Ukraine. Le service de renseignement extérieur russe SVR a accusé le service de renseignement de l'OTAN de former des terroristes dans la base de syrienne occupée par les USA d'Al-Tan afin de les envoyer au Donbass, dans les deux républiques populaires de Lugansk et de Donetsk. La base Al-Tanf, située à la frontière entre la Syrie et l'Irak et la Jordanie, est le théâtre d'activités de préparation des terroristes affiliés à Daesh afin de les exploiter dans le Donbass, a assuré un communiqué du service de renseignement extérieur russe. Selon le texte, fin 2021, les Américains ont libéré des dizaines de terroristes de Daesh, originaires de Russie et des pays de la CEI. Ces personnes ont été envoyées à la base d'Al-Tanf, contrôlée par les États-Unis, où ils ont suivi une formation spéciale sur les méthodes de perpétration d'actes de sabotage de terrorisme, en mettant l'accent sur la région du Donbass. Et de poursuivre, les forces américaines continuent de former de nouvelles unités de Daesh au Moyen-Orient et dans les pays africains, et il est prévu qu'ils soient transférés afin de participer à des activités de sabotage et terrorisme en Ukraine via le territoire de la Pologne. Le jeudi 3 mars, le ministère russe de la Défense avait annoncé l'arrivée de mercenaires étrangers en Ukraine, dont 200 croates, notant qu'ils commettaient des actes de sabotage et des raids sur des convois de matériel russe. Toutes les attaques de mercenaires étrangers en Ukraine sont menées à l'aide d'armes fournies par l'Occident aux militants en Ukraine, tels que les missiles de Javelin fournis par les États-Unis, NLO fournis par la Grande-Bretagne et Stinger, a ajouté le ministère russe. Dans le même contexte, une source informée a déclaré à l'agence russe Sputnik que les autorités ukrainiennes ont accordé l'asile à des terroristes internationaux, y compris ceux qui ont combattu en Syrie. Le territoire ukrainien est actuellement utilisé comme refuge pour plus de 1000 membres d'organisations terroristes et extrémistes. Parmi eux se trouvent ceux qui ont participé aux hostilités sur le territoire syrien, indiqué la source aux experts. Dans les conditions actuelles, l'opération militaire spéciale des forces armées russes vise non seulement à neutraliser l'Ukraine, mais aussi à combattre le terrorisme, a ajouté la source. Auparavant, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konachenkov, avait annoncé que les extrémistes en Ukraine utilisaient les mêmes méthodes que les terroristes internationaux en Syrie. Selon Damas, l'agression israélienne contre la banlieue de Damas après le crime de Daesh montre la réalité de la coordination entre le groupe terroriste Daesh et d'Israël. Le ministère syrien des Affaires étrangères a affirmé que l'agression menée par l'ennemi israélien contre des zones résidentielles dans la banlieue de Damas, quelques heures après le crime commis par les terroristes de Daesh, montre la réalité de la coordination précise et directe entre les deux parties. Dans un communiqué, le ministère des Syriens des Affaires étrangères a fait noter ce n'était point par hasard que l'agression israélienne contre des zones résidentielles dans la banlieue de Damas se produit quelques heures après le crime perpétré par le réseau terroriste Daesh et qui a fait en fait des martyrs parmi les héros de l'armée arabe syrienne qui est en route vers leur maison, soulignant que cette agression terroriste menée par Daesh et Israël révèle la réalité de la coordination précise et directe entre les deux parties criminelles. Et le ministère d'ajouter, la République arabe syrienne a mis en garde contre les répercussions des agressions israéliennes répétées visant la Syrie et qui ont fait des pertes de vie humaine et des dégâts matériels colossaux et qui ont causé la terreur aux civils dont les enfants et les femmes. Le ministère a assuré que l'exploitation par l'entité sioniste et le réseau terroriste Daesh des événements internationaux pour camoufler leurs agressions sauvages ne trompera pas le monde sur de ce qu'Israël et Daesh font pour promouvoir leurs objectifs communs qui sont dévoilés par la communauté internationale. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.